I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va parler d'une carrière, d'un destin même, j'ai envie de dire, celui de la troupe du Splendide. Pour faire cela, j'ai deux chroniqueurs acerbes, j'ai deux chroniqueurs splendides eux aussi, à savoir Max Besnard, hello.
Salut, mais alors je ne suis pas à Serbe, je suis en Touraine là aujourd'hui.
Oh non, c'est nul.
C'est nul, c'est nul.
Allez, on annule l'émission, ça suffit.
Donc on a dit qu'on a niveau Christian Clavier, hein, pas Laurent Ruquier.
Alors, on essaie de oh, c'est très bon. Ça y est, j'ai compris.
Et Yerim Sarr, hello, c'est Yerim.
Salut.
Tu vois, Yerim, sobre, il y a pas de...
Bon, mais c'est facile quand tu passes en deuxième. Hein.
Exactement.
C'est vrai.
Bon, vas-y, on refait si tu veux le bonjour et je passe en deuxième, tu verras, je vais être hyper pertinent.
Non, on va le garder et tu sais quoi ?
Je vais être dans la retenue.
Écoute, tu vas passer en deuxième. Pour la peine, tu auras le temps de cogiter. Yerim, on célèbre un peu le Splendide. Ils ont eu un César d'honneur et je peux vous dire que j'ai préparé cette émission à fond puisqu'on m'a remis entre les mains le dernier numéro de Gala, Confidence sur plus de 50 ans d'amitié, le Splendide, des retrouvailles qui font du bien.
Ah ouais.
Et où ils sont, cette émission est travaillée, où ils sont tous les 7 en couverture. Alors, c'est que 4 pages, hein. Si vraiment, y a du texte, il y a assez peu, et il y a assez peu de confidences, en fait. En vrai, c'est un peu comme s'ils étaient toujours restés un peu mystérieux, ce genre de Splendide, alors qu'on les a vus depuis 40 ans déjà. Yerim, qu'est-ce que ça t'évoque, le Splendide ? Est-ce que tu fais partie de cette génération qui a été bercée par le Père Noël est une ordure ? Parce que, il faut le dire, pour moi, ça faisait partie du rite obligatoire des vacances. Il fallait regarder le Père Noël est une ordure. Voilà, d'où une certaine pas lassitude, mais c'est-à-dire que c'est bon, je le connais maintenant. Mmh. Yerim, est-ce que le Splendide, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ça m'évoque surtout des rediffusions télé, en fait. Parce que moi, je les ai découverts. Non, mais c'est vu mon âge, je les ai découverts en retard. En fait, c'était du rattrapage. Genre les Bronzés, je l'ai vu en colonie de vacances quand j'ai, je sais pas, je devais avoir 14 ans. Donc ouais. Après, c'est vrai que celui qui avait le plus de réputation d'être culte, on va dire, c'était le Père Noël est une ordure, effectivement. Parce qu'en plus, il y avait le côté comédie noire, ce qui fait que quand je l'ai découvert, donc. Je sais plus en quelle année, mais c'est sûrement sur TF1. Ben, en gros, j'étais surpris parce que j'avais déjà vu ces comédiens dans, en fait, des films comiques un peu plus gentils, on va dire. Donc c'était une agréable surprise, en fait. Même si c'était complètement anachronique, ma façon de le découvrir.
Il faut le dire, nous, on est déjà plus tout jeunes, hein, mais surtout moi. Mais j'ai dit ouais, merci. Merci, Yerim. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas la génération splendide. On n'est pas, pour avoir été de la génération splendide, aurait fallu naître en. Peut-être en 68, tu vois. On est plus jeunes. Donc, on a découvert ça sur le tard. C'est les VHS, hein, pour moi, c'est les générations VHS.
Ouais.
Et surtout la rediffusion annuelle. Au moment de décembre du Père Noël est une ordure et un peu des Bronzés que j'ai certes moins vu. Max,
alors que c'était rediffusé chaque été, tu vois.
Ouais, c'est vrai, mais c'est sans doute parce que je partais l'été, je sais pas. Non, j'avais pas la télé, ça, tout simplement. Ça réglait le problème. Toi, Max, je suis sûr que t'avais la télé l'été. Qu'est-ce que ça t'évoque, pas les Bronzés, mais le Splendide?
C'est une très bonne remarque parce que je crois que, sans vouloir rentrer nécessairement dans les détails, moi j'ai passé mon enfance à l'étranger et je revenais en France seulement l'été pour quelques semaines. Donc, autant les Bronzés, je les ai vus et revu en rediff télé, autant le Père Noël est une ordure, je l'ai vu hyper tard parce que j'étais jamais en France au moment de Noël. Et mes parents n'étaient peut-être pas non plus dans ce délire-là, je sais pas. En tout cas, je me rappelle l'avoir vu, je devais déjà être ado, tu vois, je devais déjà avoir, je pense, 14-15 ans, un truc comme ça. Et même si j'ai trouvé ça plutôt cool, il n'y a pas eu cet effet. Y a pas, pour moi, c'est pas une Madeleine de Proust, Le Père Noël est une ordure, c'est un film qui me fait beaucoup rire, mais il n'y a pas ce côté vraiment ancré dans l'enfance que je peux avoir avec, en particulier, Les Bronzés font du ski, qui est à mon sens, toujours une jolie référence. Même si, forcément, pris dans, pour ce qu'ils sont aujourd'hui, en 2021, il y a quand même des méga problèmes de rythme, de mise en scène, de musique, etc. Mais c'est vraiment c'est des doudous, quoi. C'est des machins que tu vois quand t'es gosse et qui ont malgré tout un humour assez universel. Et qui fonctionne très très bien, même si clairement c'est complètement aujourd'hui dépassé, complètement anachronique.
Alors, d'accord, c'est beaucoup de doudous transitionnels et de films de vacances et de films de Noël. Maintenant, je vais vous dire, il faut rentrer dans le vif du sujet. Quel est le meilleur film des Splendides selon vous? Bayerim, vas-y, tu envoies les premières balles.
Donc, on parle au sens strict, c'est-à-dire sur les cinq, pas au sens large où tu pouvais...
Voilà, les cinq...
À la limite, faisons un classement dans ce cas, puisqu'on est là.
Ouais, faisons un classement, c'est exactement ce que j'avais en tête.
ok.
Toi et moi.
Alors, c'est super compliqué, en fait, de départager pour la première place Le Père Noël et Papy fait de la Résistance, pour moi. Mais je pense que c'est quand même Le Père Noël est une ordure. Et du coup, juste derrière, mais presque ex aequo, Papy fait de la Résistance. Et après, le truc, c'est que moi, j'ai jamais vraiment été conquis par tout ce qui est Les Bronzés, en fait. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que le troisième, ça va être le dernier. Ensuite...
c'est sûr.
Ouais, non, parce que là, si tu veux, le côté Expandables de la comédie française, ça marche pas, quoi. Faut vraiment arrêter les trucs comme ça. Ça va être Le Père Noël, Papy... Les Bronzés font du ski et Les Bronzés 3. C'est ça mon ordre du premier au dernier.
Max, et bien sûr, on n'inclut pas ce qu'on appelle le splendide cinématique universe, parce qu'il y a vraiment des films qui pourraient presque y rentrer, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en commun, et parce que, je sais pas, tu dis pas Papy fait de la Résistance, mais tu vois, il s'en est fallu de peu pour que Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, tu vois, ça soit presque un film du splendide. Ou le docteur Apfelnuk.
Ah, je pensais à celui-ci direct, évidemment.
Parce que celui-là, c'est l'univers étendu. Grosse fatigue de Michel Blanc aussi.
L'univers étendu.
Ah bah ouais, non mais grosse fatigue, c'est littéralement le métafilm du Splendide. Hein,
si on va par là, est-ce que Les Visiteurs, c'est pas l'extension de ce cinématique univers?
Alors, je pense que si on faisait une chronologie officielle des films du Splendide, c'est-à-dire de les replacer dans le temps. Et qu'on considère...
Dans les couloirs du temps, même.
Voilà, dans les couloirs du temps. Qu'on considère pas Clavier comme un comédien, mais comme une personne qui existe vraiment, c'est-à-dire le personnage de Jacouille. Je pense qu'il y aurait à dire. Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour le replacer dans le contexte, pour expliquer comment Jacouille devient Christian Clavier 50 ans plus tard. Je pense que c'est une seule et même personne. Et toi, Max, tu vas pas te défiler. C'est quoi ton top 5?
Alors, j'avoue que il y a des... punchline. En fait, c'est plus des punchlines que des films que j'apprécie, je crois, Les Bronzés. En soi, c'est pas des... Ça, c'est horrible ce que je veux dire, mais je crois pas que ce soit des grandes comédies, mais c'est des comédies avec quelques punchlines qui sont quand même mémorables. J'aurais un peu de mal à les classer. Peut-être que Les Bronzés font du ski me fait un peu plus marrer, mais en même temps, à chaque fois que je le revois, je me dis, c'est pas possible, la façon dont la musique est amenée, pour moi, il y a un vrai problème à ce niveau-là, mais bon, ça relève peut-être du détail, j'en sais rien, mais moi, vraiment, ça m'agace. En premier, Le Père Noël est une ordure, c'est évidemment celui qui est le plus grinçant et finalement le plus moderne. En tout cas, qui correspond le plus à ce qu'est devenu l'humour que j'apprécie aujourd'hui. Et effectivement, il est sur la première marche du podium. C'est vrai que Papy fait de la Résistance est toujours aussi monstrueux aussi dans son genre. Il y a une grosse place pour Martin Lamotte et tout ça. Et c'est vraiment... c'est un peu les seconds couteaux que j'apprécie aussi qui gravitaient autour de la troupe de base du Splendide. Donc peut-être effectivement, je crois que j'aurai à peu près la même lecture que Yérim pour le coup. Et dans tous les cas, les bons étroits tout au fond, et on lui met un bon coup de pompe au passage, quoi.
Bah, écoute, moi tu sais que il y a pas de mauvais esprit dans MDR, mais il faut qu'on parle des bons étroits. les bons étroits, c'est quand même c'est un accident industriel à un niveau extraordinaire, parce que je pense qu'il y a rien qui est défendable dans le film, les gags. L'univers, la nostalgie, et comme disait Yérim, le côté expandables de la comédie française. Je pense que Les Bons Étroits aussi nous a... je pense que, tu sais, il y a l'effet papillon. Et il y a un truc qui fait que si tu changes quelque chose dans l'histoire, dans le cosmos, il y a un truc karmique qui fait que ça va te retomber dans la gueule. Je pense que le fait qu'ils aient fait Les Bons Étroits... ça a empêché Gérard Jugnot de faire l'Astérix 3, et ensuite que ça a donné Astérix aux Jeux Olympiques, qui est sans doute un des plus mauvais films de l'histoire de l'humanité. Mmh. Et je pense que rien que pour ça, j'en veux en fait aux Bons Étroits d'avoir été si nul. Je me souviens que c'était vraiment, il y avait un truc de tous les gens y allaient en essayant de revoir des potes. D'ailleurs, le film s'appelle Amis pour la vie, ce qui est vraiment une escroquerie, parce qu'ils sont pas amis du tout dans le film. On était dans la salle et on se regardait en se disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Je pense que ce film-là, c'est la fin des illusions, quoi. Ils peuvent plus faire semblant. Et du coup, je pense que maintenant, le Splendide, maintenant, ils sont condamnés à être une espèce de potes un peu naphtaline qu'on sort pour les Césars, en fait. C'est-à-dire, là, on les a sortis parce que c'est le 40e l'année anniversaire. Mais ils ne peuvent plus faire de films que quand ils sont que tous les deux ou que tous les trois. Mmh. Et par contre, je pense que le meilleur film du Splendid, alors attention, c'est une hot take, une prise chaude, comme on dit dans le jargon. Je pense que le meilleur film du Splendid qui a été fait de ces dernières années, c'est All Inclusive de Fabien Antoniente.
Tu lis dans mes pensées.
Parce que c'est un film où il y a Thierry Lhermitte et il y a Josiane Balasko qui rejoue littéralement, et il rejoue tous les deux les personnages qu'il faisait dans Les Bronzés, et Fabien Antoniente, il est pas innocent. Je sais pas s'il est aussi bon qu'on voudrait le croire, toi et moi, mais clairement, il y a un truc de, ah, attends, Les Bronzés font plus Les Bronzés, je vais faire un peu Les Bronzés avec Josiane Balasko et Thierry Lhermitte. Certes, en y rajoutant François-Xavier de Maison et Franck Dubosc, ce qui est un peu genre, c'est, Franck Dubosc, en fait, je pense que c'est le gros regret son regret, c'est de pas avoir été dans Splendid. C'est parce qu'il aurait voulu être dans... C'est pour ça qu'il est dans Les Visiteurs, c'est pour ça qu'il est là-dedans. C'est qu'il aurait adoré être un mec dans une troupe, et je pense qu'il y a un peu de ça, quoi.
Alors, je suis désolé. Tu vois, dans Camping, t'as une espèce de filiation... C'est un peu, c'est le fils illégitime des Bronzés, tu vois. La saga Camping.
Ah bah, un peu, ouais. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste, d'après vous? Quel est celui qui a... Alors, il y a une troupe, on va se focaliser que sur la troupe de base. C'est lequel qui... Quel est celui qui, d'après vous, a le mieux vieilli? Parce qu'ils ont tous essayé de faire carrière à part. Et
Alors, attends. Définis mieux. mieux vieilli, qu'est-ce que tu entends par mieux vieilli?
C'est-à-dire qu'il y a eu la carrière la plus... Celle qui vous intéresse le plus, voilà.
Bah, c'est Clavier.
Ah, alors, discus.
Il n'y a pas de discus, c'est Clavier. Je veux dire, c'est limite si ce podcast We Love MDR, il n'est pas entièrement créé pour parler des films de Christian Clavier. Et puis, entre deux films, on comble avec ce qui sort, quoi.
C'est vrai alors, tu as un argument, mais moi, je ne suis pas... Voilà, et toi, Yérim?
Alors, ouais, ça dépend dans quel sens on le prend. Si c'est le côté...
C'est par le bas. Non, mais c'est-à-dire,
si c'est décortiquer un truc... Ou c'est marrant d'en parler parce que le film est tellement mauvais que, ou de mauvais goût, enfin, ce que tu veux, que oui, du coup, c'est très marrant et intéressant d'en parler. Ouais,
oui, c'est
Clavier parce que.
Comme Michael Bay pour le.
Voilà,
poster,
ouais,
quoi.
Si tu veux. Et à ce moment-là, ouais, je comprends et j'aurais dit c'est Clavier aussi. Après, si je parle de celui qui m'a le plus intéressé, ce serait Michel Blanc en tant que réal, en fait, par rapport à ce côté-là de sa filmo. Et puis même niveau écriture, je trouve que c'est quelqu'un qui, en tout cas pendant un certain temps, avait une exigence que les autres n'avaient pas forcément. Et par contre, en acteur, enfin en actrice, pour l'occurrence, j'aurais mis Balasko, perso.
Ouais, Balasko, elle a clairement eu tout un univers et surtout...
Ah, parce que alors Marianne Chazelle dans les films de... dans les films de comment il s'appelle,
de la bande Quentin, à fifi.
Par exemple,
ou la bande à fifi.
Ces trucs-là, la Chauveur, ses compagnies, non, c'est.
Bah,
c'est vrai, tu cautionnes pas Yerim. Oh,
la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans 30 jours max de la bande à fifi.
Ouais, c'est ça.
Donc non, pour répondre à cette question.
Et vous savez quoi, moi ça me touche quand je vois Marianne Chazelle dans la bande à fifi ou chez Eric Cantat. Alors je vais expliquer, hein, c'est pas forcément une vanne sur des films proprement parlés, mais ça, je me dis que les mecs qui ont écrit ça, ils se sont dit ah, on est un petit peu cinéphiles, on essaye quand même de donner un peu des rôles à jouer aux vieux et un peu de respect pour les anciens. Il y a un côté, toi Yerim qui connais le rap, le côté, le respect des tontons et des anciens, il y a un peu de ça, quoi. Genre ouais, on a Marianne Chazelle, c'est un peu la daronne du game, tu vois, il y a un petit peu ça, de ça.
C'est un peu la Diams de la comédie française en fait.
Je sais pas comment on en est arrivé là, mais moi personnellement je trouve que Michel Blanc a clairement une filmo vraiment intéressante. En tant que, comme tu disais, en tant que réalisateur, je trouve qu'en plus, il a fait des trucs un peu audacieux quand même. Il avait fait le scénario du dernier Pascal Chaumet qui s'appelait Un petit boulot, qui était pas mal du tout, qui est sorti à titre posthume et qui est vraiment une espèce de tentative de frère Cohen en France, ce que les gens ont jamais vraiment essayé de faire parce que les frères Cohen quand même ça reste quand même intouchable. Mais ouais, je trouve que Michel Blanc clairement il est un peu au-dessus du game maintenant. Je trouve que en termes de rigueur, en termes de stoïcisme, Thierry Lhermitte il a quand même quelque chose. Parce que Thierry Lhermitte, il aurait pu faire des trucs atroces. Il a jamais fait des trucs. Il avait fait des films nuls, mais il a jamais fait de trucs atroces, quoi. Il a toujours été un peu droit dans ses bottes. Il a jamais fait. C'est celui qui, je pense, a le moins de casseroles. Et je dis ça parce que alors que j'ai vu Brutus versus César de Caron, il a essayé de jouer l'équivalent de Dominique de Villepin dans Quai d'Orsay. Tu vois, il a essayé de faire des choses, quoi. Et enfin, on peut pas ne pas parler de Gérard Jugnot qui est parti de loin, quoi, le mec moustachu avec, comme il le définissait, avec sa moustache collabo. Mais c'est comme ça qu'il l'appelait. Il a fait la moustache collabo, ouais, et puis et puis ensuite, bah il a quand même fait. C'est lui qui a les plus, je dirais, les succès populaires les plus pas inoffensifs, mais c'est-à-dire il est associé maintenant à l'image des choristes du petit Nicolas. Enfin voilà, il est associé à un truc de bon sentiment, y compris dans les propres films qu'il a réalisés. Je ne sais pas si vous avez vu Une époque formidable et tous ces films-là.
L'ermite, il a un peu ce truc-là aussi, hein, je trouve.
Ah, lui, c'est clairement le gentil. Je pense que...
Vraiment, hein, lui, c'est... Enfin, je veux dire, quand tu regardes Joyeuse Retraite, quand tu regardes c'est quoi déjà la finale, ouais. Quand tu regardes tous ces trucs-là qu'il a fait ces dernières années, c'est quand même du...
C'est du bon sentiment.
Ah, c'est du bon sentiment. C'est du téléfilm du dimanche soir, quoi.
Et oui, clairement. Mais est-ce que, du coup, j'ai entendu vous dire, est-ce que vous avez, est-ce que par exemple pour vous, moi je vois que le prochain film qui réunit un peu des c'est un peu une question provoque, qui réunit un peu de l'équipe du Splendid, c'est Do You Saint-Tropez, un film scénarisé par Jean-Marie Poiret et Christian Clavier, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Poul Vord. Et j'ai l'impression déjà de voir un petit peu le Splendid, parce qu'il y a Thierry Lhermitte qui joue dedans et tout ça. Donc
est-ce que t'as un pitch à nous faire? Moi j'aime bien quand tu nous fais des pitchs.
Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai pas pu faire l'émission des pitchs parce que c'est dur de savoir, on n'a pas de visibilité sur ce qui va sortir.
Bon, alors je vais vous lire ce qu'il y a sur Wikipédia dans ce cas.
Vas-y, lance-toi.
L'action se déroule à Saint-Tropez dans les années 60 ou à l'été 1970. On sait pas.
Attends, pourquoi on sait pas?
Parce qu'on sait pas.
Moi,
je te lis ce qui est marqué sur Wikipédia. J'en sais rien. C'est Wikipédia en même temps. Hein, donc voilà. Le commissaire parisien Jean Boulin, interprété par Clavier.
Non, c'est pas possible. Jean Boulin.
Véritable cataclysme ambulant, est envoyé chez un célèbre milliardaire belge, joué par Poul Vord, donc, pour enquêter sur une tentative de meurtre visant sa femme dans la somptueuse villa où est réuni pour les vacances le fleuron du showbiz. L'inspecteur enchaîne les gaffes à la recherche du coupable. Donc en gros, c'est...
C'est le Cluedo.
C'est un couteau tiré. C'est Knives Out en version française.
Mais avec Jacques Palmer, quoi, en fait.
Et scénarisé par Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. et réalisé par Nicolas Benamou, qu'on a pu apprécier. C'est lui qui avait réalisé Babysitting 1 et 2. Et ouais. Il avait réalisé à fond une comédie qu'on aime beaucoup avec, avec Max, puisque c'est un peu la comédie où je peux donner cette anecdote, puisque allez, on est entre nous. C'est la comédie qui a formé Max à MDR. Je lui ai dit, viens, on va voir cette comédie. Et si tu surviens à cette comédie, tu peux participer à MDR. Et voilà, et on est là 4 ans plus tard.
Vraiment le rite initiatique horrible.
C'est ça.
Et c'était pas si nul, hein. On a voilà, c'était pas
alors,
si nul.
Je tiens à préciser puisque on en est à sortir quelques petits détails comme ça.
Ah là, tu sors une émission de fin de saison là.
Non, pas du tout. Non, c'est juste pour alimenter la conversation rapidement. Ce fameux film qu'on vient de pitcher du Doux Saint-Tropez, il est co-scénarisé, donc tu l'as dit, par Poiret et par Clavier. Il y a aussi Jean-François Alain qui a écrit dessus.
J'avais peur que tu racontes d'autres anecdotes sur à fond, parce que genre parce qu'on a beaucoup, c'est quand même une comédie sur laquelle on a beaucoup brainstormé alors qu'elle ne le mérite pas trop, hein. Jean-François Alain, donc le scénariste du prochain OSS, qui espérons on le verra avant 2022.
Ouais.
C'est très compliqué tout ça.
Écoutez.
J'avais une anecdote sur quelqu'un qui a des vrais regrets, enfin un vrai regret par rapport au Splendide, c'est François Berléand. Parce que.
Ah ouais?
Parce qu'il avait dit dans je sais plus quelle interview il y a pas mal d'années, qu'en fait, il avait été approché pour faire partie de leur troupe, et il avait dit non. Et c'était, je crois, juste avant que les mecs explosent tout avec je sais plus quelle pièce de théâtre de l'époque. Et bon, il disait ça avec beaucoup d'autodérision. En gros, il disait, j'ai tellement du flair que quand Gérard Jugnot, bien plus tard, m'a appelé pour les choristes, il se trouve que j'ai eu le choix entre prendre juste un cachet et prendre un cachet et un intéressement sur les entrées du film. Et pareil, meilleur flair du monde, il a dit non, je vais juste prendre un cachet. Donc évidemment, le truc a battu tous les records de l'époque. Donc voilà, c'est assez particulier comme truc. Et toujours sur Jugnot.
Je suis touché par cette histoire.
Ouais, c'est côté canard boiteux, quoi. C'est assez drôle. Et sur Jugnot, alors moi, il y a très longtemps, j'étais tombé, je crois, sur la chaîne Comédie, sur, je crois, le premier et l'unique one-man show de Gérard Jugnot, en fait. Donc, il date de je ne sais pas quelle année. Et qui était très drôle, en fait. C'était le Jugnot de l'époque. Je pense que c'est peut-être contemporain de la pièce Le Père Noël est une ordure. Et c'est en gros, c'est Jugnot qui campe plusieurs persos tous détestables. Il y a un mec ultra bourge qui parle à sa femme de ménage et qui s'aperçoit pas qu'il est juste insupportable, de mépris, de condescendance. T'as un serveur d'un resto qui tombe sur une famille de crevards et qui leur fait sentir qu'il les aime pas. Il a tout le temps des tics de langage du style « Ouais non, on n'est pas à la cantine des PTT non plus. » Enfin, tu vois, que des espèces de trucs de rêve de l'époque. Et je m'attendais franchement à rien, et c'était plutôt pas mal. Donc voilà.
Écoute, Gérard Jugnot, le souci, c'est que quand je ferme les yeux, je pense à lui dans Les Bons Étroits. Et
ah bah oui.
Ah ouais,
je pense le pire, c'est qu'il est le pire des Bons Étroits. Et c'est dur d'être le pire dans un film qui est déjà le pire.
C'est ça. Mais moi, c'est surtout... Ouais. Quand t'as les crédits, enfin le détail, t'as juste marqué tous les mecs du Splendide ont scénarisé ce film. Et est-ce que t'as essayé d'imaginer les séances d'écriture de ce film? C'est-à-dire que t'as Michel Blanc, Josiane Balasko, l'ermite, Jugnot, tout le monde qui se pose et qui disent voilà, ces personnages vont se retrouver, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Et que t'arrives à ce résultat final, tu vois. Ça a dû être déprimant.
Ah bah ouais, surtout que le moment où t'imagines Patrice Lecomte, il dit bon voyons voir ce que vous avez fait. Vous êtes sûr qu'on va passer ça au propre? Parce que en fait ils ont tous des arcs de scénario, mais les arcs ils sont horribles. Enfin celui de l'arc de Gérard Jugnot, c'est de faire un AVC quand son fils lui apprend son homosexualité. Et les gens, il y avait quelques, c'était, la salle était quand même triste, hein. Les salles tristes, il y a rien de pire qu'une salle triste, genre, il y a pas de rire. Et là, il y a eu des gens qui ont eu des petits rires nerveux, genre, ah non, c'est pas possible. Genre, les gens avaient rejeté le film avant même la fin de, avant même la fin du film. Et encore une fois, c'est la faute peut-être du Derzo, hein, qui a dit non, non, Astérix en Hispanie, ça ne se fera pas. Over My Dead Body. Peut-être qu'il nous a sauvé du pire film Astérix, et en même temps, j'ai du mal à concevoir ça quand on a vu Astérix aux Jeux Olympiques, encore une fois. Arrêtons de dire du mal et espérons. Arrêtons d'analyser comme ça. Non, putain. Non, on va couper au montage, ça. Bon, les gars, je pense que on a passé en revue pas mal du splendide, le bon comme le mauvais. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à MDR. Je vous remercie aussi d'avoir participé à tous ces MDR distanciés parce que c'était une saison assez particulière. Pour l'instant, MDR passe en petit hiatus. J'espère petit. J'espère que les salles vont réouvrir et qu'à ce moment-là, on pourra refaire des émissions MDR. Donc, on va faire une petite pause. Je te remercie, Max. Je te remercie, Yérim.
Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une toute petite bricole?
Tu peux faire passer tu peux faire des spéciales dédicaces aux gens que tu aimes.
C'est le moment. C'est pas exactement une dédicace. C'est plus une reco, en fait.
Ah bah vas-y.
Parce qu'on a un peu zappé de faire des recos et figure-toi que j'ai remué ciel et terre ces dernières semaines pour avoir des informations sur, non pas un film, mais un album de musique qui va sortir le 11 juin prochain. Et
ah,
très envie d'en parler.
Je vois ce que tu parles.
Salut. J'ai une idée, le 11 juin, album de musique essentiel.
C'est pas Booba.
C'est pas Booba.
Le 11 juin.
Ça peut bien l'être.
Non, franchement, je l'ai pas.
Écoute, alors j'ai carrément, là j'ai ouvert le communiqué de presse que j'ai réussi à récupérer. Je remercie très très fort l'attaché de presse qui m'a envoyé ça. Didier Bourdon se met à la chanson avec un premier album solo. Son album Le Bourdon sortira en juin prochain et composé de 10 titres, dont un duo inédit avec Michel Larocque. Et une adaptation d'une chanson des Inconnus reprise avec ses fidèles complices Bernard Campan et Pascal Légitimus, Vice Versa 2.0, pour un clin d'œil nostalgique. Moi, j'ai très très envie d'écouter ça.
On peut le dire, il y a une actu chargée, Didier Bourdon, puisqu'il était en guest dans le clip de Soprano, si je m'abuse.
Exactement.
Et je ne sais pas si tu l'as vu, Yérim, c'est une reprise de. C'est un sample de Gold.
D'accord.
Je sais que t'es fan. Non,
de quoi, de Soprano.
Honnêtement, c'était passé sous mon radar, mais j'irai checker.
Bah, étrangement, effectivement,
par contre, ce qui m'étonne le plus, c'est que j'étais persuadé qu'il avait déjà sorti un solo Bourdon, je veux dire.
Alors, il a déjà sorti des albums.
Il y a très longtemps.
Il a déjà sorti des albums, mais là, c'est vraiment son... Ouais, c'est un peu peut-être un reboot de sa carrière musicale, finalement.
Il avait sorti une chanson qui, déjà, il y a 10 ans au moins, s'appelait « On peut plus rien dire ».
Oui, moi je pensais à celui-là. Ouais.
Franchement, il était visionnaire, hein, bien sûr.
Ah bah oui. Donc voilà, le 11 juin, ça va sortir et ça sera Marocco, même si j'ai pas eu encore la chance d'écouter les extraits, je suis sûr que ça va être hyper bien.
Ah, je pense que ça va être du bon son pour nos platines.
Ouais, il y a moyen qu'il y ait du tube de l'été là-dessus. Hein.
Je pense que si j'entends pas Yérim m'en reparler, je comprends pas. Sur tous les médias où il est présent, je pense que tu dois en parler maintenant.
Ça va dépendre des featuring.
Ah bah oui, évidemment. Ah putain, j'espère qu'il y aura un featuring de Soprano. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce MDR. Donc, on vous retrouve, j'espère, prochainement. Pour nous retrouver, en tout cas, et tous les épisodes en date, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de rester abonné, merci de nous laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Faites du bruit pour le retour de MDR quand ça sera le bon moment. Voilà, on vous embrasse très fort. Je vous remercie aussi de nous avoir écouté toutes ces émissions. On a essayé de faire avec parfois les moyens du bord, parce que faut le dire, parfois quand il n'y a pas de comédie, c'est dur. Parfois quand il y a peu de comédie, les peu de comédie qu'il y a eu, c'était un peu dur aussi. Vous n'étiez pas présent pour les émissions précédentes, mais il y a eu quelques comédies sorties sur les plateformes de streaming. C'était pas ouf. J'ai l'impression que le choix de la plateforme de stream, c'est un peu la roue de secours. Hein. Donc voilà. J'espère que ça va revenir bientôt, mais on croise les doigts, n'est-ce pas? Et on vous embrasse très fort et prenez soin de vous et on se reparle bientôt. On vous embrasse et à très bientôt. Ciao.
Salut.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.